Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La Côte du Miracle.
Non mais c'est une blague. C'est ça que vous me proposez? Donc ça y est, on y est quoi. C'est la Cour des Miracles.
Mesdames et messieurs, c'est la Cour des Miracles. Je plaisante pas.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
Tu vas tout de même aller la voir de notre part. Et tu lui diras que la Cour des Miracles ne l'oublie pas.
Moi, c'est mon émission préférée.
La Cour des Miracles, Radio PFM.
La Cour des Miracles!
Yes, bienvenue dans la Cour des Miracles sur Radio PFM 99.9. La Cour des Miracles, c'est le dernier agora de l'underground hip-hop, dub, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est surtout une spéciale cinéma. Donc voilà, donc on est un peu en marge de toute façon dans la Cour des Miracles, on est en marge de tout. Et là on fait une spéciale en marge du Arras Film Festival qui s'est passé la semaine dernière, donc du 3 au 12 novembre. Voilà, attends, je baisse un petit peu parce que bon, je m'entends plus. Je suis pas tout seul dans les locaux. Salut les gars, comment allez-vous? Je suis avec j'ai qui sous la main? J'ai Bud, j'ai Charlie, j'ai Loulou, voilà. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. Voilà, tiens. Bah qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure? On va parler cinéma. Donc voilà, donc 7ème art, hein, c'est pas la première fois qu'on fait une.
Non.
Ouais, c'est un peu les marronniers, tu sais, on le fait chaque année, tu sais, c'est un peu comme
Fin de
l'andouillette, oui. Vacances de Noël, on en parle tout le temps.
La foire à l'ail.
Voilà, foire à saucisse, tout ça. Donc voilà, donc bah toi Charlie, toi tu vas nous parler un peu de ce que t'as vu au Arras Film Festival,
ouais.
Vite fait hein.
J'en ai vu moult.
T'as vu moult. On va s'écouter des répliques de films entre autres, on va se faire un petit quiz aussi parce que c'est sympa.
Et puis t'adores les quiz.
Moi j'adore les quiz.
Beaucoup les quiz.
Tout ce qui est interactif, voilà.
À part quelques auditeurs qui détestent les quiz.
Bah, c'est certain.
Certains, on les connaît. Hein. Ils se reconnaîtront.
En même temps, on peut pas faire plaisir à tout le monde, je veux dire. Voilà, bon.
T'es un peu le Nagui d'Arras finalement. C'est-à-dire que tu fais la musique et aussi peu de jeu.
Ah ouais, quand même.
Un petit côté Nagui. En fait.
Ah ouais, bah ouais, je sais pas si c'est. Ouais, c'est.
À part avec les chevaux, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas très sympa. donc, ok. Vas-y, bah tiens, on va commencer, on va un peu temporiser, on va se faire un petit quiz après les gars, etc.
Oh, super.
On va, ouais. Mais tu m'as l'air bien sage aujourd'hui, Bud.
Oui.
Ça va?
Non, pas du tout.
D'accord, ok. Bon, on en parlera en off. On en parlera en off.
Parce que je vois que t'es super bien habillé aujourd'hui avec ton haut chapeau de 30 cm, ton monocle et tout.
Bah,
et
nous, on est petite chemise à jabot, tu vois, petite chemise à jabot.
Ouais, ça te va plutôt bien, mais voilà, je vois que toi, t'as les meilleurs budgets que nous. Moi, je suis un peu d'aigle.
T'as enfin ressorti la paire de Santiago.
Ouais.
Ah, petit moment, voilà, ouais. Bon. Au moins, vous voyez où est-ce que je claque mes thunes, les gars.
Ouais, je vois ça.
C'est ça, quoi.
C'est ça que servent vos impôts, monsieur.
Allez, trêve de bavardage, tiens, on va se faire un tour du côté de la VHS. VHS, la vidéo home system.
Ah ouais, vous appelez comme ça.
Ouais, vidéo home system, je crois. Donc voilà, la VHS, on a tous eu des magnétos, etc. Donc tiens, on va écouter un mec qui est super intéressant.
Justement,
c'est Réservoir Vlog sur YouTube, qui va nous parler de la chute et de l'ascension de la VHS. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être?
Oui, j'étais en train de me demander qui d'entre nous et qui, sur les auditeurs, savait régler son magnétoscope pour le mettre à l'heure.
Si, moi je suis allé le faire.
Bah, évidemment.
Je le faisais même passer en 8 têtes au lieu de 4 têtes pour enregistrer deux fois plus, etc.
Oh là là.
Le bidouilleur là.
Le mec a 75 ans.
À l'origine, le cinéma est un spectacle, une expérience que l'on a tendance à vivre en dehors de chez soi. À la fin du 19e siècle, le cinématographe offre au monde une toute nouvelle forme de divertissement à la limite du surnaturel. Des photographies animées projetées sur de grands écrans, la plupart du temps dans des musées, des cirques, puis dans des salles prévues à cet effet. Au fur et à mesure, ces images vont finir par raconter quelque chose. Les films sont de plus en plus longs, de plus en plus ambitieux. On y rajoute des effets d'illusion, du texte, de la musique, puis des voix, de la couleur, des effets pratiques. Le tout dans un seul but, offrir l'illusion du réel. Raconter une histoire qui plaira au plus grand nombre afin qu'il se déplace en salle, moyennant le prix d'un ticket. Un business rodé, extrêmement judicieux, mais qui va connaître une de ses plus grandes révolutions à la fin des années 70.
Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement à 10?
Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station comme l'ORTF que des satellites, que des bandes que vous avez chez vous.
En 1956, le premier magnétoscope voit le jour. Il s'agit de l'Apex VRX1000. Il fait la taille d'une pièce entière et coûte pas moins de 50 000 $. Un objet destiné à l'usage professionnel, alors qu'à la même époque, c'est le boom de la télévision aux États-Unis, et les foyers américains commencent à se remplir de cette fabuleuse invention qui diffuse toutes sortes de programmes.
Et en plus, ça roule! On va pouvoir regarder Jackie Gleason pendant qu'on mange!
Il faut attendre 1972 pour que le premier magnétoscope destiné au grand public soit commercialisé par Philips, avec le VCR, vidéo cassette recorder, qui offre à cette époque une capacité d'enregistrement de 45 minutes. Sony emboîte le pas avec le U-Matic et la Betamax en 1975, suivi par JVC en 1976 avec son vidéo home system, la VHS. On est donc à l'époque où plusieurs formats de vidéocassettes se battent pour la suprématie. Sony avec sa Betamax est un concurrent très sérieux, notamment grâce à une superbe qualité d'image. Mais le grand public veut surtout pouvoir enregistrer ses programmes favoris. Et avec ses 1 heure d'enregistrement, la Betamax ne peut que s'avouer vaincue devant la VHS de JVC, qui propose une qualité d'image moindre, mais une capacité d'enregistrement allant jusqu'à 10 heures sur certaines cassettes. C'est tout simplement imbattable, et ça permet à la VHS de devenir le leader du marché pendant plus de 20 ans. Au début des années 80, la VHS est toujours un objet de niche, qui prend malgré tout de l'ampleur grâce à deux pans du cinéma, le porno et le cinéma de genre. Le porno a fait vendre des millions de cassettes à travers le monde, car pour la première fois, les gens peuvent profiter de ce programme très spécial en toute intimité. La VHS est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'industrie du porno.
Alors monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là ?
Oui, à peu près.
Qu'est-ce que c'est cette cassette ?
Je crois que c'est un film X.
Ah bon ? Vous en voyez souvent ?
De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon petit moment.
Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul.
Le cinéma de genre, lui, a fini d'être boudé grâce à la VHS. Un nombre incomparable de films méconnus se rendent disponibles au plus grand nombre grâce à l'édition vidéo. Des films que les collectionneurs s'échangent, se vendent, et surtout se louent. Parce qu'avant l'arrivée des grands studios dans la partie, la VHS est un objet très cher à l'achat. Seuls les professionnels peuvent s'en procurer et faire une plus-value grâce à la location.
Ce magnétoscope VHS possède 2 têtes vidéo. Il est multisystème, PAL, SECAM, mais SECAM. Il recherche automatiquement les stations et mémorise jusqu'à 45 chaînes. Grâce à son tuneur, interbande et hyperbande, je peux même stocker mes chaînes câblées.
Mais qui voudrait acheter une merde pareille ?
Est-ce que tu veux rire ? On est à Los Angeles, j'en vends des centaines, je suis même en rupture de stock.
En 10 ans, la VHS a complètement remodelé l'industrie du cinéma et le mode de vie de la population occidentale. Un tout nouveau bien culturel avec ses propres codes, mais surtout un nouveau moyen d'avoir accès à l'art et à bas coût. L'arrivée d'Hollywood dans le business a énormément augmenté la production de VHS. Forcément, avec plus de films, il faut plus de VHS. Il ne faut pas se contenter de les louer, il faut les vendre. Les prix sont cassés, le marché de la location en prend un coup, mais celui de la vente devient très rentable. Dans les années 90, la VHS est une mine d'or, notamment grâce à Disney qui s'est enfin décidé à entrer dans la partie. Les films d'animation de cette époque s'arrachent à la vente, et Disney a aussi grandement aidé à faire de la VHS une norme. Les gens ne peuvent plus envisager de ne pas pouvoir regarder des films chez eux, et pour cause. Plus de 32 millions de copies du Roi Lion sont vendues, plus de 25 millions pour Blanche-Neige et Aladdin, plus de 15 millions pour Cendrillon. C'est un raz-de-marée. Et comme toujours, c'est Disney qui gagne à la fin. En 1998, Titanic sera un des derniers gros succès en VHS. Car à la même époque, un nouveau format plus compact, plus simple d'utilisation et de meilleure qualité commence à prendre ses marques. Je parle bien sûr du DVD. Début des années 2000, la transition entre la VHS et le DVD se fait de plus en plus pressante. Le DVD possède des qualités indéniables, une meilleure qualité d'image et de son, pas de rembobinage, un meilleur stockage, un boîtier plus fin, bref, un adversaire de taille pour un combat gagné d'avance. Les studios suivent vite la tendance et laissent tomber petit à petit le format VHS. En France, le dernier film à sortir en VHS, c'est Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. La dernière VHS, elle, sortira d'usine en 2015, et le dernier magnétoscope en 2016. Le DVD, quant à lui, a aussi cédé plus ou moins sa place au Blu-ray. Sans oublier le 4K Ultra HD, qui est réservé à nous, les collectionneurs fous qui continuent à prendre du plaisir à entasser notre joli tas de boîtiers sur des étagères, qui ne cesse de se remplir, tant le cinéma a une infinité de belles choses à offrir.
Ouais.
Oh yeah.
Ouais, bah merci Réservoir Vlog, voilà pour...
Gros tas d'aviscations, franchement.
Ouais, bravo. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'étais tombé dessus sur internet, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans l'émission.
Un peu trop frivole dans la voix, je trouve. Un peu trop de blagues à tirer la rigole, parce que c'est un sujet sérieux, je pense qu'il aurait dû le traiter de façon plus sérieuse. Et à part ça...
La VHS, quoi. La VHS, quoi. Je crois qu'il n'y a pas plus...
Est-ce qu'il a dit ce que ça voulait dire VHS?
Ben oui, c'est vidéo... Tu n'as rien écouté une fois de plus.
Ouais, je suis malade. Voilà.
Non, mais c'est... T'inquiète. Non, mais ouais, c'est vidéo home system.
Ah, mais tu lui excuses tout. Chaque fois, tu lui excuses tout.
Ouais,
c'est comme ça qu'on a...
J'ai un avertissement, j'ai un blâme.
Non, ça va. Vous êtes toujours dans la cour des miracles. Voilà, c'est première partie de l'émission. On est un peu en marge de la Rassume Festival qui s'est passé du 3 au 12 novembre 2023 de l'âge de Jésus-Christ.
Oui.
Voilà, donc... tiens, on va peut-être partir sur un petit quiz, les gars. Je vous ai prévu un petit quiz. Donc bah vu que vous êtes trois autour de la table, on va faire trois équipes, hein. Genre la team Scorsese, la team
Kubrick.
La team Kubrick, yes. la team ouais. Tarantino, hein, tout simplement.
Ce qui est très bien, donc, c'est que dans 30 secondes, tout sera mélangé.
C'est ça, quoi. On ne saura plus rien. Loulou, je t'ai pas testé au micro. T'es là ou pas ?
Toujours là.
Ok,
toujours
ça marche, yes, ok. Bah, c'était pour savoir. Tiens, cette année, qu'est-ce que je vous ai préparé en quiz ? Vous aussi, chers auditeurs, hein, vous pouvez jouer, mais ininteractivement parlant, hein, bien évidemment. Tiens, en fait, cette année, je ne vais pas vous faire passer des musiques et il faut que vous les reconnaissiez. Non, en fait, cette année, je vais vous dire des répliques de films. Je vais essayer de le faire plus ou moins neutre, hein, parce que bah, des fois, c'est facile de les trouver. Et par rapport à ça, bah, on écoutera une petite OST du film, etc.
Du
allez, un film sur le cyclisme, par exemple. Donc voilà, ok. Tiens, on va commencer avec premier film. Dans quel film on dit je préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est Liberté.
Gladiator, pardon.
Hein?
Gladiator.
Ouais, Gladiator. Non, c'est pas Gladiator, mais tu t'en rapproches, ouais.
Enfin, c'est Braveheart, pardon.
Ouais, exactement, oui, c'est ça, Braveheart, qui au Québec s'appelle Cœur Vaillant. Voilà, un film de Mel Gibson de 1995.
Ah, ce fameux film avec Mel Gibson. Hein. Ce Mad Max à la mer.
Ouais. Australien qui joue un indigène écossais, ce film.
Ouais, c'était. C'est pas que la suite de tournure, hein. C'est un jeu un peu genre Mad Max, mon apocalyptique.
C'est Waterworld.
Ah non, oui, c'est ça, oui, avec le truc bleu, j'ai confondu les deux, oui, évidemment.
Un point pour la team Scorsese. Hein.
Allez.
C'est ça, toi, c'est la team Scorsese.
C'est mon réalisateur préféré, du coup,
c'est vrai.
Original, bien sûr. Bah, en d'accord. Fait, j'ai vu Les Affranchis quand j'avais 14 ans et ça m'a subjugué. Parce qu'on voit un clip de 3 heures. Quoi.
Et tu t'es affranchi toi-même.
Ouais, de tous les carcans habituels de mise en scène, bien sûr.
Ok, d'accord, très bien. Allez, on continue avec un deuxième film. Alors, j'ai combien de films ? J'en ai 12 en tout. Hein. Deuxième film, qui a dit dans quel film ? Tu la sens, ma grosse intelligence ? Tu la sens, ma grosse intelligence ?
Putain, c'est vrai, c'est dur comme
ça. C'est récent, ça va ?
Alors, si je veux la faire avec l'intonation, ça ferait « Tu la sens, ma grosse intelligence ? »
C'est pas dans Astérix ?
Non, c'est un film américain. Random. Avec un acteur qu'on aime bien, putain, assez cartoonesque.
Ouais, c'est Jim Carrey.
Hein ?
Jim Carrey.
Ouais, d'accord, mais bon, moi il me faut.
Bruce Tout-Puissant.
Tu la sens, ma grosse intelligence ?
Bruce Tout-Puissant.
Non, mais t'y es presque là. Il y a des animaux, il y a plein de choses
docteur
comme ça.
Pas le docteur Dolittle, mais ouais, le truc.
Des animaux.
Ah oui, avec les pingouins, putain, ce film-là qui est un navet.
Un film de 94 de Tom Shadyac.
Alors, pas du tout, je pensais pas du tout celui-là, je pensais le dernier avec les trucs.
Attends.
Ace Ventura.
C'est Ace Ventura.
Ah yes, Ace Ventura. Mais oui, tu la sens, ma grosse intelligence. Mais
c'est
oui,
le moment où il enquête dans l'appartement en face de tous les flics et il fait un truc un
oui,
peu.
Oui, 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 oui.
Exactement.
Yes, c'est ça, ouais.
Et bah ouais. Voilà, c'est. Et là, on écoute The Tokens, The Lion Sleep Tonight, hyper connu, évidemment.
Une reprise. C'était quoi ? C'est des Apaches. Tu l'avais repris aussi, le jour où il est mort ce soir.
Alors là, je ne sais pas.
Si on va le trio de jeu.
Non, Powo, c'était Powo, c'est ça, ouais, Powo.
Exactement, ouais, ouais, il y avait Powo qui l'avait repris.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
Lil Powo.
Ouais, ouais. Yes, allez, un point pour la team. Toi, t'es team quoi, toi, déjà, j'ai oublié.
Les meilleurs films de tous les temps. Team Lord Barrington, Orange Mécanique, Full
team,
Metal
team
Jacket.
Team Kubrick, aye. Ok, un point pour toi. Allez, tiens, on continue ce quiz. Alors là, ça va être un peu long. Donc, voilà. Je vais te dire un truc que tu sais déjà, le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a des vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence, si tu te laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher.
Rocky, c'est comme ça qu'on gagne.
Rocky Balboa, ouais. Exactement.
Rocky Balboa ou Rocky le
non,
premier
non, en fait, ça, c'est le prix de Rocky Balboa.
Le 4, du coup.
Exactement. Rocky Balboa, sorti en 2006, qui est un film de Sylvester Stallone.
C'est juste entre Smash et Casablanca Driver, mais... Vu que ça parlait de boxe et tout, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, Rocky.
Alors, on dira jamais assez que le premier Rocky, c'est un chef-d'œuvre absolu.
J'aime pas, moi.
C'est pas un film de bof, quoi. Non, mais je veux dire, quand j'étais petit, on présentait souvent les films de Stallone, quoi, les films un peu de pecno. Et en vrai, non, le premier Rocky, c'est un super film.
Alors, rien à voir, Rambo 1, qui était quand même.
Très bon aussi,
ouais. Ah, ouais, quand même, dans le commissariat et tout. Tu
ouais, ça n'a rien à voir avec la suite.
Ouais. Parce qu'il y avait, différent. c'est ça. Donc, on a rien à voir, un film très psychologique sur le 1 et puis sur le 2, un truc de guerre, tu vois, c'est ça.
Yes, voilà, Rocky Balboa, sorti en 2006, l'un des derniers bons films, on va dire, de Sylvester Stallone. On comptera pas le dernier Expendable, qui est une grosse merde, qui n'est pas réalisé par Sylvester Stallone.
Mais si, celui-là, oui, il met des perruques, là, il était bien aussi.
Il a fait les Creed ou pas? Les Creed, c'est pas lui? Parce que c'est dans la saga Rocky Balboa.
En fait, je sais pas s'il les réalise encore vraiment.
Non. Il a été mis de côté gentiment.
Ok, ça marche. Tiens, allez, on continue. Quatrième. Ouais, on est à quatrième. Qui a dit dans quel film quand est-ce que j'aurai droit à un Noël normal, moi? Vous savez, le sapin, la dinde, le feu de cheminée en famille. Mais non, on est si bien dans un putain de conduite d'aération.
C'est Die Hard.
Die Hard.
Piège de cristal. C'est un Die Hard, mais c'est dans le 2.
C'est à l'aéroport.
Ouais, exactement, c'est dans l'aéroport. C'est dans l'aéroport qu'il dit ça. Film qui s'appelle justement.
Piège de cristal.
Le deuxième Die Hard. Die Hard 2, il s'appelle comment?
C'est.
Pour bah, mourir,
ah,
la tour.
Tant pis pour vous.
Merde, attends, je l'ai.
Le point revient à la communauté.
Une journée en enfer, piège de cristal, et le 2, c'est.
Bah, c'est le moins bon. C'est le moins bon.
Il est pas terrible.
C'était réalisé en 1990 par Rémi Harlin. Ça vient d'un roman plus éponyme du même nom de Walter Wager. Ça s'appelle 58 minutes.
Avec la bombe et tout.
Exactement.
Putain, j'avais en tête.
C'est pas le pire, hein, parce qu'après le 4, le 5, c'est les
Ouais, d'accord, mais on s'arrête quand même à la première trilogie de base.
Oui.
Tiens, justement, on va s'écouter un petit peu de 58 minutes pour vivre avec Jean Sibelius, avec cet opéra numéro 26 de Finlandia.
C'est dans celui-là qu'il y avait. Al-Qaïda, motherfucker, des phrases.
Yippie-kayé. Ça, c'est dans le premier, ça,
l'idée. C'est ça.
C'est
qu'on s'en souvient très peu de ce film-là, des 58 minutes. Là.
Il est pas si pire, je trouve.
Il est pas bien. Bah, c'est le film que t'avais en VHS, mais bon, après.
C'est un bon film du dimanche quand tu sommes Noël, t'es un peu mal à la tête de la veille.
Mais j'aimais bien, moi, le début quand il était avec sa pancarte et tout, dans le quartier.
C'est le 3.
C'est le 3,
c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est McTiernan. Le 1 et le 3, c'est McTiernan les deux.
Exactement. Et moi, c'est vrai que le 3 aussi, j'ai. Le 1, mais c'est vrai que le 3 aussi.
On s'aime beaucoup plus
j'ai adoré quoi.
Bah, puis quand il y a Samuel L. Jackson dans un film.
Dès le début, ça commence, ça claque, ça pète de partout. Et puis ça s'arrête plus quoi.
Ah, c'est drôle, le film est super drôle aussi.
Allez, allez, on continue. On est arrivé au numéro 5. Voilà, on y va. Il va être beaucoup plus rapide. Qui a dit dans quel film je suis trop vieux pour ces conneries?
C'est L'Arme Fatale. Ouais,
exactement. L'Arme Fatale, film de Richard Donner, sorti en 1987.
On en est où au score, monsieur?
Alors, on en est où au score?
3 points, toi t'en as 2.
Je suis trop vieux pour ces conneries.
Ah, je sais pas, parce que c'est pour ça justement.
T'as eu d'ailleurs, c'est toi qui as eu d'ailleurs.
Non, mais moi, il est score, je suis trop vieux pour ces conneries. Bah, je sais plus, moi je donnerais.
D'ailleurs, c'est.
Ah, tu
c'est
donnes ami, c'est même pas.
D'ailleurs, y'a personne qui l'a eu. Hein.
Ah, bah, du coup, t'as.
Ah, bravo. On va faire nos points nous-mêmes.
J'ai vu 0 à Fatal Shark. Je n'ai vu aucun.
Moi, j'ai 17. 17 bleus.
Allez, allez, on continue. Qui a dit dans quel film? Alors, celui-là, il est dur. Donne-moi un nom. Mais c'était à tes parents de le faire. Qui êtes-vous donc? Je suis votre pire cauchemar. Non, mon pire cauchemar, c'est de me réveiller sur mon pénis. Alors, vas-y pour le trouver, celui-là.
Ah putain, j'aurais dit au début, j'aurais dit les griffes de la nuit, un truc comme ça. Ouais. Mais, Scream. Scream.
Non, bah en fait là on vient d'écouter
Scary Movie.
C'est pas mal. Ouais.
Non, alors ça ressemble un petit peu parce qu'on est dans l'humour complètement ouf.
Hot shot.
On vient d'écouter la BO du film L'Arme Fatale et je sais pas si vous vous souvenez, moi c'est un film que j'ai vu plein de fois étant gamin en VHS. C'est un film avec Samuel L. Jackson justement.
Ah c'est sorti... Au revoir et à jamais.
Non, c'est sorti en 1993. C'est Alarme Fatale.
Ah oui,
Alarme Fatale, qui est la parodie de L'Arme Fatale, mais qui est complètement ouf avec des
alors,
blagues.
Par contre, c'est super sympa de nous avoir laissé répondre, hein, mais en tout cas, voilà.
Alors, ça va. Non, non, mais j'essaye d'avancer un peu. Un film de Gene Cantino, voilà, Alarme Fatale.
C'est marrant, en fait, c'est que des films où l'esprit des frères Juifs, en fait.
Ouais. Exactement, c'était totalement ça. Par exemple, dans Alarme Fatale, il y a une blague à un moment, il rentre dans une caravane, et en fait, quand il ouvre la porte de la caravane, il se retrouve dans une immense maison.
Ouais.
Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont repris cette blague-là.
Mais on sait pas.
Mais voilà.
Mais ouais, mais carrément, ouais, il y en avait plein. C'est du moins, ils ont fait un.
Et il y avait Samuel Jackson qui était relativement jeune hein, dans ce film.
Ouais.
Voilà. On va peut-être parler un petit peu des scores. Alors, évidemment, au niveau de la team Tarantino, on est sur un score symbolique de 0.
Après,
vas-y, dis-moi.
En termes de défense, je pense que je suis né après. Tous ces films.
Bah moi aussi.
Non, d'accord, mais ça n'a rien à voir, tu sais. Par exemple, on peut parler de Jésus, t'es né après Jésus, tu vois ce que je veux dire?
Bah, je le connais pas, je l'ai jamais connu.
On peut parler de la Seconde Guerre mondiale.
Je l'ai vu une fois et c'est tout.
Allez, allez, on continue. Yes. Allez, numéro 7, on continue. Ouais, allez, on reste un peu dans. On y va, les gars, là.
On sait toujours pas le score de chacun, à part
zéro, je sais pas. Bah non.
Moi j'ai 1, Ace Ventura, déjà, c'est sûr. D'ailleurs, tu me l'as pas donné.
Non, non, je l'ai pas
donné. Et puis là, on est à 3,
je crois que t'as 4.
Toi, t'as 3, je crois.
J'ai 3, ouais.
Ouais, score 16. Ok, on continue. Vieux film, c'est parti. De tous les bars, de toutes les villes dans le monde, il fallait qu'elle entrât dans le mien.
Ah, c'est Sin City, non?
Non, c'est un vieux film de 1942. Voilà, de Michael Curtis.
Putain, ça a dû passer sur Paramount Channel.
Un bar.
Ça se passe.
C'est Code Girl.
Ça se passe au Maroc.
Ah, c'est Casablanca du coup.
Exactement. Ah. C'est Casablanca de Michael Curtis, 1942. Voilà. De tous les bars, de Franck toutes les villes dans le monde, il fallait qu'elle entrât dans le mien.
Ah, on a un invité surprise qui arrive. Un retardataire. Faut reprendre le quiz depuis le début.
On écoute en ce moment le thème de Casablanca créé par Max Steiner.
Alors peut-être que tu vas avoir un challenger arrivé sur la table.
Je crois que les dés,
bon,
sont, les dés sont jetés. il doit rester genre 2 répliques.
C'est vrai.
On va être à la 8ème réplique, il y en a 12.
Il y en a 12?
Ouais, sachant que la dernière elle est impossible. Hein,
ok, nice.
La dernière je la garde pour l'équipe Tarantino. Tu sais, parce que vu que c'est la subsidiaire, tu sais, celle qui vaut 1000 points, il va tout gagner. Quoi. Donc voilà, donc ça c'était Casablanca.
Je pense que t'aurais pu faire des répliques en langue étrangère aussi.
Ça sera pour l'édition prochaine, la prochaine édition l'année prochaine.
C'est vrai que...
Travaille ton allemand, d'ores et déjà.
Allez, allez, on continue. Numéro 8. En,
S'il te plaît.
Merci, c'est gratuit.
En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde.
Attends, tu peux répéter, excuse-moi, j'étais sur mon roue.
En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Grande phrase prise d'un film américain de 1989.
89.
De Peter Weir.
Pour la blague, j'allais dire Independence Day, mais non.
De Peter Weir. Chose comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Tu peux répéter la phrase?
Je peux donner un genre.
En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. C'est un film dramatique qui a reçu moult Oscars.
Est-ce que c'est un homme d'exception, Russell Crowe?
Alors moi, n'est pas un homme d'exception.
Je vais répéter
mais
Robocop.
Ça commence, on commence à être.
Je vais répéter
dessus,
Robocop,
quoi.
Du coup, moi.
Alors, on n'est pas sur du Robocop. Non, on n'est pas sur du Robocop. 1989. Avec un acteur, l'acteur principal, en fait, qui a dû avoir un Oscar dedans. On le voyait pas du tout dans ce genre de rôle puisqu'il avait un rôle comique.
Est-ce que c'est le cercle des poètes?
Exactement, c'est le cercle des poètes disparus, qui s'appelle aussi en québécois la société des poètes disparus.
Oh capitaine, mon capitaine.
Exactement, c'est un point pour l'équipe
Tarantino.
Avec des banalités quand il y a Robin Williams, je trouve.
Ah mais
William
Robin Williams,
c'est un peu fait un peu cousu de fil blanc aussi.
Ouais, mais en fait ça
j'ai,
passe.
Je préfère dans ces rôles dramatiques.
Ah ouais, c'est très américain, c'est à côté très années 90.
Je trouvais pas drôle dans ces films comiques, mais dans les films dramatiques, il a une sensibilité que j'aimais bien. Robin Williams, il avait quelque chose de.
Ça compense un peu son côté irritant, ouais.
Ouais.
C'est d'accord, ouais.
Ouais, on aurait pu passer Good Morning Vietnam, etc. Je vous aurais fait Good Morning Vietnam. Tu vois, t'aurais su tout de suite quel genre de film c'était. Ok, voilà. Alors, l'Équipe Tarantino vient de rentrer en lice pour cette compétition. On est arrivé à la 9e question, 9e réplique sur les 12 répliques de cette émission, La Cour des Miracles spéciale cinéma. 9e. C'est bon, 9e. C'est parti. Mais dites donc, ça fait deux fois que vous me faites ça. Vous m'avez déjà pris mes chaussures. Maintenant mon vélo.
De finesse, c'est tout, la grande vadrouille.
Le cardio.
Putain, ça. Exactement.
Yeah, boy.
Exactement, c'est la grande vadrouille 1966 de Gérard Houry.
Aïe, aïe, aïe.
Bah, dites donc.
J'adore Bourville. C'est ma Madeleine de Proust. Ouais, Bourville.
Oh, bah,
un oranger sur le sol irlandais.
Ce qui est marrant, c'est que. Pardon, ça sature
pareil.
Un peu.
Grand poète triste, un peu un clown triste, j'aime beaucoup.
Ce qui est drôle, c'est que maintenant avec Internet, les générations qui ont grandi en voyant la grande vadrouille une fois par an à la télé, ça n'existera plus quoi.
Non, c'est vrai.
Personne n'aura vu la grande vadrouille.
Plus personne ne regarde la télé.
Voilà. Et du coup, la grande vadrouille, c'est un film qui a amené à disparaître un peu de l'imaginaire collectif. Quoi.
En parlant de ça, c'est vrai que la télé a tué beaucoup de films à force de les remettre. Voilà. Par exemple, De Funès, on en avait à toutes les sauces et tout le temps.
Ouais.
Et De Funès, sur tous les films, même Hibernatus, il est trop nul à la fin, tu vois, je veux dire. Par contre, il y avait
Hibernatus, c'est pas un super film.
Non, c'est ça.
Le concept, c'est incroyable.
Le film en huis clos dans la voiture bloquée, là, ça, c'était une tuerie. On s'y attendait pas aussi avec Lou de Funès en huis clos, là, la voiture qui tombe du ravin, qui sont sur une branche, avec sa femme et puis une femme. Le huis clos de Louis de Funès, pareil, gros étonnant. On compare l'aile ou la cuisse où il avait son même humour et tout. Janvier ça, c'était un peu fieux.
Allez, on continue. Numéro 10. Tain, on m'a encore volé ma meule. Si tu veux, putain, j'en vends une de la même couleur.
Les sous-doués. Ah putain, il l'avait.
Exactement. Un point pour l'équipe Scorsese. C'était bien Les Sous-doués 1980. Film de Claude Zidi, musique par Bob Broll.
Qui pareil est passé à peu près 90 000 fois à la télé.
Ouais.
Ma meule. Et ma meule. Bah, si tu veux, j'ai la même. Vas-y, c'est la même couleur.
Ah, c'est vrai que c'est ça. Pareil, dans le Dells, qui a beaucoup de films qui ne verra plus jamais le jour, sur des jeunes qui faisaient leur service militaire. Que ce soit les Charlots et d'autres encore. D'autres. Il y avait plein de films comme ça à l'époque, parce que pour la jeunesse, ça parlait beaucoup de service militaire. Ce passage, maintenant, il n'y aura plus jamais, mais le nombre de films sur service militaire, sur les lycées et tout qu'il y avait comme ça.
Ouais, après, Macron veut à moitié remettre le service militaire, donc pourquoi pas refaire des films avec Christian Clavier vieux. Voilà.
Ah oui, les bidas de Christian Clavier, tout le retour.
Pourquoi pas, quoi.
Ah, je le vois bien avec une casquette à l'envers, un survêt Lacoste et une banane et tout. Eh hey, ouais.
Oh là là. Ok, allez, on continue. Numéro 11. On est bientôt à la fin, les gars. Vous inquiétez pas. Alors, qui a dit dans quel film
Si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous arriver des pleines brouettes.
C'est la soupe aux choux. Mais...
La soupe aux choux, ouais.
Exactement.
Les proutes et les martiens, c'est la soupe aux choux.
Exactement.
Mais répondu avant moi, ça
la soupe aux choux de Jean Giraud, 1981.
T'as choisi que des chefs-d'œuvre ce soir.
Ah ouais.
Musique de Raymond Lefèvre.
La musique des chiens.
C'est vrai.
De musique parfaite pour des remix techno.
Il y en a eu tellement.
Mais c'était pas le meilleur film de.
La fin était un peu tirée par les cheveux. Hein.
Des deux acteurs. Hein,
de
Villeray, c'était pas son meilleur film. Malgré le fait qu'on se souvienne de cette tête là, comme ça.
Vraiment, ils ont fait un gros effort sur le maquillage et le costume.
Ouais. C'était.
Et puis Louis de Funès, il était un
sur
petit.
La fin, sur la fin.
Ouais, ça sentait la fin un petit
comme
peu.
Comme même la cuisse, je sais pas si vous avez vu la cuisse récemment, c'est vrai que.
3 litres de pisse,
que
t'en as 3 litres de
pisse.
Ah, l'aile ou la cuisse, il me touche quand même au niveau du cœur. Ouais, on sent qu'il est fatigué, mais.
Mais ouais, avec Coluche et tout, pareil,
c'est quand même mieux écrit que ce film de Jean Giraud, quoi.
Oui, mais ça marche pas, le Coluche Funès. On voit qu'il n'y a pas de finalité sur le jeu, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais on voit pas le je trouve pas qu'il y a cette alchimie qu'on pourrait trouver dans d'autres films qu'avec d'autres acteurs. Voilà, bon. En aparté.
Ok, là on arrive à la toute dernière, donc on va peut-être redire un peu les scores. Hein. Il y a un point pour la team Tarantino. Il a fondant hein, depuis. On a la team Scorsese. Team Scorsese, on est sur du gros.
5.
6 ou 7,
des trucs de ouf, hein, je crois.
Je crois, hein.
Je crois que c'est à 6 ou 7.
Peut-être, ouais.
On va dire 6.
Je te fais confiance.
Et 5 pour la team. C'est quoi déjà le nom
Moi j'ai 3.
Team Kubrick. Ouais, alors sauf
mais
que
si
là
tu me rajoutes les points, alors, tu rajoutes des points.
Là tout est remis en jeu parce qu'en fait là ça sera impossible à trouver, en fait, tout simplement. C'est la der. Il vaut 1000 points celui-ci. Donc dans
1 milliard de trilliards de points.
Dans quel film y a-t-il cette réplique écrite ? Pour entretenir la guerre en France, il faut 700 000 écus par mois.
Hein ? C'est écrit dans le film, c'est-à-dire que c'est un truc qui est écrit...
Dans quel film y a-t-il cette réplique ?
Jeanne d'Arc.
Cette seule et unique réplique écrite du film, c'est la seule réplique du film
Jeanne d'Arc.
Qui est en plus écrite... pour entretenir la guerre en France, il faut 700 000 écus par mois.
C'est-à-dire que tout le reste, c'est de l'improvisation de la part des comédiens.
Bah tout le reste, en fait, il n'y a pas de réplique, en fait.
C'est voilà. Vrai, c'est un film muet.
Hein ? C'est un film muet.
Putain,
muet.
Ouais, j'ai même pas ça dans le...
Bah, c'est une comédie, j'imagine ?
C'est assez burlesque. C'est assez burlesque parce qu'en fait, c'est plutôt une représentation théâtrale qui est filmée. Non.
Le fourberie de Scapin ?
Non.
Putain, non. Ça n'a rien à voir. Plus, rien à voir.
Donne encore des indices, voir si c'est.
C'était vraiment random.
L'OST qu'on va entendre après, ça a été fait par un grand compositeur français, vraiment un très très grand compositeur français de musique classique. Voilà.
C'est quelle décennie ?
C'est on est auquel là ? Là, on est au 20e. Hein ?
Ah, décennie, pas le siècle.
Hein ? Quelle décennie ? La première. les gens qui disent jamais ça. Hein les, non la, quelle décennie bah, la première décennie. La première décennie, quoi. Bon, allez. Bon, personne a gagné.
Attends, laisse-nous le temps.
Les écus, la guerre.
C'est un film qui. Alors, c'est un film qui a été réalisé par André Calmette et Charles Le Bargy. Voilà.
Ah, mais oui.
D'après un récit d'Henri Lavedan. Voilà.
Sur la tulipe.
Sur une musique composée par. Camille Saint-Saëns. C'est sorti en 1908, c'est le tout premier film qui a été filmé. C'est le tout premier film qui a été filmé, c'est L'assassinat du duc de Guise.
Ah ouais, on l'a jamais trouvé.
Je sais, c'était fait exprès. Donc voilà, Assassinat du duc de Guise, c'était les toutes premières images filmées d'un film, mais en fait, c'était plutôt une scène théâtrale en fait qui était filmée. Donc évidemment, il n'y avait pas encore il y avait pas encore la musique, mais en fait je me trompe, non, c'est plutôt le premier film où est-ce qu'il y avait de la musique incorporée dessus, et donc voilà,
c'était joué avec un orchestre sur scène parce qu'il pouvait pas capturer la musique
voilà.
Dans un truc,
ouais. Donc c'était
le micro était existé avant,
ça avait été filmé et incrusté avec de la musique pour la toute première fois, c'était en 1908 c'était l'assassinat du duc de Guise, voilà, morceau de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, on va plus présenter, évidemment.
Dis-moi, mon petit monkey, vous qui êtes un érudit.
Pour sûr
Le premier film à avoir été filmé au cinéma, C'était quoi? Tout le monde le sait, cette histoire-là.
Au cinéma?
Non, bah, le premier, la première prise qui était filmée.
C'est arrivé à notre regard,
bah, ça. Bah, ça dépend. Il y a, il y en a eu.
Avec les frères.
Il y a les frères Lumière, évidemment, ouais. Qui ont fait le train en arrivant en gare de la Ciotat.
Ça, c'est un truc public. Après, ils sont sûrement filmés auparavant.
T'as eu aussi les sorties des dames de l'usine de je sais plus où, en fait.
Très court film, ouais. C'est ça. Il y avait aussi la femme au monocle, justement, l'oiseau, la grand-mère, l'oiseau, qui commençait les premières scènes avec des effets, des loupes et tout. Donc voilà, vraiment des essais. Mais ouais, c'était pour savoir reconstituer ça. Mais je pense que ouais, c'est le train qui était filmé le premier.
Train partant. Et justement, où est-ce que les gens étaient partis en courant de la, de la salle, parce que.
Après, je pense que c'est le premier film diffusé. Après, peut-être que la personne a filmé un truc beaucoup plus simple la première fois.
Mais je pense pas au test un peu technique.
Je pense que c'est. En fait, le premier film, c'est un selfie. En fait, le gars était devant la caméra, dire ah ça marche.
Alors, le premier film, en fait, c'était pas un film, hein, tout simplement. En fait, t'avais aussi le. Au niveau du photographe, phonographe, je sais plus quoi. Ils avaient fait, en fait, sur des copies en cuivre, un cheval noir qui courait. On voyait pour la première fois ça, un mouvement digne d'un dessin animé.
C'est ça, mais ça,
etc.
C'était à titre. Éducatif.
Il y a
eu la fin de la danse et tout après qui était un peu plus pour le divertissement, mais c'était vraiment un côté voilà.
Bon, du coup, finalement, la question qu'on va poser après, c'est qu'est-ce que le cinéma ? Est-ce que ça vaut bien le coup de continuer sur ce débat ?
On en reparlera un petit peu après. Allez, on a fini ce quiz. On va s'écouter des petites répliques de films et après, on retrouvera aussi Pierre-Charles qui vient d'arriver dans les locaux. On va finir avec les résultats. Donc, on est sur du 1 point pour l'équipe Tarantino. Et ça c'est bien 3 points pour l'équipe Kubrick et 16 points pour l'équipe Scorsese.
Invaincu.
Donc plus de questions et tout voilà.
Vous êtes dans la cour des miracles, spécial cinéma, c'est bon ça.
La cour des miracles.
PFM 99.9.
Alors, pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut, c'est très simple, de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour. Hein, Daniel? T'as des problèmes avec ça, toi, hein? Une belle histoire d'amour.
Ah oui.
Oh, oui. Oui. Des bons dialogues. Des enfants.
Ah oui, les enfants.
Des animaux. De la belle musique. Un message, très important, un message. Et surtout, surtout, une happy end.
Voilà.
T'es sûr que t'as rien oublié?
Non, c'est bon. Hein.
Et des filles à poil?
Non.
Note-le.
Oh putain.
Des bons acteurs.
Très bien.
Des effets spéciaux.
Bien.
Des bons gags.
Des bons gags, très bien.
Un running gag.
Excellent ça, Marcel. Un running gag.
En plus, j'en ai un.
Qui?
Mon cousin.
Quoi, il y a un running gag, ton cousin?
T'inquiète.
Des animaux.
Des animaux, excellents.
Ça dit.
Non, mais elle a raison, faut mettre de la zoologie quand même.
Oh non, arrête avec ce truc, ça fait chier tout le monde. On n'a jamais vu de la zoologie au cinéma.
Des filles à poil.
Déjà dit.
Des mecs à poil.
Non.
Des enfants à poil.
Tu sors.
Des vieux.
Pas con, ça.
Un running gag.
Ça fait deux fois, Marcel.
Des beaux sentiments.
Des beaux sentiments.
Des références cinématographiques.
Très bien.
Et des handicapés.
Handicapé, ça roule.
Une pêche melba.
N'importe quoi.
Des beaux décolletés.
Et mon running gag.
Non, Marcel.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à Big Ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai?
Écoute-moi bien, mon petit José, tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde.
Et je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à Laïa, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto.
Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been.
La vache! Moi, j'ai l'air has-been. J'en ai pour plus d'une barre de fringue sur moi. Alors va te faire mettre.
Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Bien, considère qu'on n'est plus amis, habit bol.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Ouais, d'accord.
C'est du génial. Mais pas comme ça, ça fait de la mousse.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague.
Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Mais c'est qui n'est pas là ?
Ouvre-toi ta gueule, toi,
hein ! Hey, t'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les œufs.
Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Nous sommes des Spartiates !
Chef, non, chef !
Combien tu mesures, deuxième pompe ?
Chef, 1m75, chef !
1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça !
Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, hein ?
Callahan. Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris ? C'est contraire à ma politique.
Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique.
L'intention ? Elle restait à établir.
Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.
Oh, Audrey Bean, ne faites plus de bêtises comme l'année dernière dans le jardin public, compris ? Ça n'était pas de très bonne politique.
Oui, mais moi, quand je vois trois aliénés en toche violette poignarder un mec devant toute la foule d'un jardin public, alors je les flingue. Ça, c'est ma politique.
C'était la compagnie Shakespeare en plein air qui jouait Jules César, gros paysan inculte. Vous avez assassiné trois comédiens en pleine ascension.
C'est
des flics, y a-t-il un flic
exactement, alors ça c'était Leslie Nielsen, j'adore cet acteur.
Pareil, et sur le tard, il s'est fait connaître sur le tard et tout.
Mais c'était un très très bon acteur en fait.
Ouais. Bah, non mais surtout qu'il avait du potentiel, et déjà il jouait très bien le côté très classe et tout.
Il savait jouer très, en fait, il jouait des scènes complètement absurdes, mais d'une façon, manière, c'était le premier Steve Carell à l'époque.
C'est ça, ouais.
Vous êtes bien dans la cour des miracles, deuxième partie, dernière partie même, j'ai envie de dire. Voilà.
Ah non.
Mais si, bah déjà, regarde, hop, petit sample.
Oh. Très baigné.
Très baigné.
Très baigné.
Tiens, on est en marge du Harassum Festival, c'était du 3 au 12 novembre, donc qu'à cela ne tienne, on s'est dit, tiens, on va faire quand même une spéciale cinéma. Il y a Pierre-Charles, salut à toi Pierre-Charles, tu nous as rejoint.
Big up. Salut, merci pour l'invitation, c'est avec plaisir que je viens.
Bah, c'est normal, ouais. Tu sais, c'est normal.
Dès qu'il y a du cinéma,
c'est un plaisir de te recevoir dans notre émission.
Ouais. Voilà, donc bah, on va parler un peu à Harassum Festival, c'est toi qui vas commencer ça justement. Parce
ça marche.
Que, t'es allé voir des concerts, t'as fait des concerts ou pas déjà, non ?
Je reviens du Crossroad à Roubaix, ouais. Et donc j'ai vu une certaine Aouri qui fait du drum and bass. J'ai une interview, j'ai commencé à la nettoyer tout à l'heure.
Mais tu ne les as pas vus au niveau du Harassum Festival.
Alors j'ai vu The Ululers le mardi soir, c'était vachement bien. Ils font espèce de blues roots comme ça, c'est vachement bien. Il y avait un batteur en plus et c'était chouette.
Je vois Mélanie d'ailleurs.
Aujourd'hui tu vas nous parler de quoi, PCH ?
J'étais à la leçon d'actrice de Dominique Blanc, dans le grand amphi Winston Churchill au campus d'Arras, avec Bernard de Variation.
L'émission Variation, ouais.
Entre le lundi soir et le vendredi soir.
Et le vendredi à 19h en direct. Voilà. Exactement, c'est ça. Bah, quand tu veux, vas-y.
Dominique Blanc est une actrice que l'on oublie pas facilement. Tant ses rôles sont souvent intenses, et c'est sans doute à travers son premier rôle au théâtre dans Peer Gynt, mise en scène par Patrice Chéreau, qu'elle démarre le théâtre, comme elle le désirait depuis adolescence. J'aime bien le New Boricot derrière. Ça m'a dit un peu de suspense.
Ouais, yes. Vas-y.
J'étais plus heureux sur scène au Conservatoire de Lyon que dans la vie, a-t-elle déclaré, interrogée par Guillemette Audicino de Télérama. Elle se fait repérer par Patrice Chéreau, qui l'engage dans la pièce d'Ibsen. Ce sera le début d'une grande complicité professionnelle avec cet homme qui bâtira une légende avec ses élèves lorsqu'il sera directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre. Mmh. Il avait même le projet de faire carrément une école de cinéma et de théâtre et de tout. Wow. Il a surtout fait une école de théâtre, mais il a fait quand même La Reine Margot, dans lequel elle joue Dominique Blanc. Voilà. Donc après avoir entamé des études d'architecture, parce qu'elle avait été sensibilisée par l'architecture bienfaisante du psychothérapeute américain Bruno Bettelheim, ayant connu l'internement, Bruno Bettelheim, dans le camp de Dachau et Buchenwald, il est libéré en 1939 et rejoint les États-Unis, où il écrira de nombreux textes sur l'enfance et l'autisme, ça c'est pour se situer. Et il avait créé un peu une espèce de méthode avec l'architecture pour que l'enfant apprenne en étant décontracté, on va dire, pour faire vite. En architecture, dit Dominique Blanc, on était 8 ou 9 filles sur une promotion d'une centaine d'étudiants. Une rébellion dans cette promo qui décide à séquestrer le directeur de la faculté. Après,
c'est pas très sympa ça.
Non, c'est pas très sympa. Mais après une journée symbolique de séquestration, elle décide finalement de monter à Paris pour tenter sa chance au conservatoire de Paris, qu'elle rate. Tout comme le conservatoire de la rue Blanche, mais elle était super obstinée.
Ah ouais.
Et donc, elle est certainement influencée par les métiers de ses parents par rapport à l'architecture, parce que sa mère était infirmière et son père était gynécologue accoucheur. Et donc, ça l'oriente vers les métiers de soins. Finalement, elle se forme en 1980 au cours Florent, en classe libre. Sa première expérience au théâtre, au cinéma, pardon, et négative. C'est avec Jean-Luc Godard. Ça s'appelle le film Passion. Pourtant, elle nous recommande de regarder le film. C'est une espèce de Jean-Luc Godard qui a mis en scène des tableaux classiques avec des acteurs et des actrices, quoi.
Mais c'est négatif, hein.
Mais voilà, elle dit que le film est bien, mais elle, ça n'a pas été drôle pour elle.
Très bien.
D'accord. Mauvaise expérience, mais voilà.
Donc elle est pas rancunière. Comme disait Guinouette Audicino, c'est vrai qu'elle est assez classe. Et donc, j'ai perdu ma ligne. Ouais, c'est ça. Sa première expérience au cinéma a été négative, donc avec Passion de Jean-Luc Godard. Et Dominique Blanc nous conseille néanmoins de voir ce film, même si c'était rédhibitoire pour elle. Elle décide de plus faire de cinéma. Elle s'épanouit beaucoup plus au théâtre. C'est sa reconnaissance de son talent par Patrice Chéreau qui lui donnera de superbes second rôles, comme dans La Reine Margot, dont toute la première partie a été tournée en studio au sein du Théâtre des Amandiers. Patrice Chéreau ne voulait pas louer des costumes, comme elle expliquait, comme la plupart des productions. Hein, on loue des costumes, puis on les rend après, ça coûte moins cher.
Ouais.
Là, c'était carrément une costumière qui créait les costumes sur les corps des comédiens et tout ça. Donc
la Reine Margot, c'est ouf, hein, au niveau des costumes. C'était... Et puis, ils ont reçu énormément de prix.
Ouais, ça a super cartonné. Hein. Ouais.
L'accessoiriste, gros taf.
Alors c'était Richard Pudzudi qui était au décor. C'était les décors du Théâtre des Amandiers. Patrice Chéreau ne voulait pas louer donc costume, ça j'ai déjà dit. Et donc c'était l'affrontement qui mène à la Saint-Barthélemy, hein, le 24 août 1572. Des protestants seront massacrés par des catholiques à Paris et dans une vingtaine de villes de province dans les mois qui suivirent.
Oui.
Patrice Chéreau excelle dans ce film à montrer toutes les passions humaines les plus morbides. Et c'est vrai que bon, tout son travail de metteur en scène, parfois on l'a même critiqué comme quoi il était un peu du harcèlement moral. Mmh. Je sais qu'il y a eu des polémiques là-dessus parce qu'il poussait à bout ses acteurs et ses actrices.
J'ai envie de dire hashtag la vie d'Adèle, mais bon, vas-y. Hein.
Ah oui, c'est ça. Mais après,
il
y en a plein comme ça. Hein.
Oui, c'est ça, c'est un peu.
Mais est-ce que ça fait pas ressortir le meilleur des acteurs de temps en temps?
Mais c'est-à-dire que lui, c'était vraiment un perfectionniste, donc il pouvait un peu user les acteurs et les actrices un peu au bout, quoi. Dominique Blanc, il incarne donc dans La Reine Margot Henriette de Nevers et elle tente de tuer. Il y a un gros combat où elle sort une dague comme ça avec des super costumes, une super photographie. Donc c'est tourné dans le théâtre des Amandes, ce que je ne savais pas. Après, elle a eu aussi une récompense, un Milou en mai de Louis Malle. C'était un film qui raconte mai 68, mais à la campagne. Mmh. Et donc, on voit se battre physiquement avec une autre femme dans un souterrain, dans une scène. C'est l'extrait qu'on a montré dans l'amphi, où on était pour la leçon d'actrice. Le tournage, selon Dominique Blanc, était idyllique. Ils sont arrivés une semaine avant le début du tournage dans le Gers. Et Louis Malle avait tout préparé. Il y avait la possibilité de faire ce montage déjà des scènes. Et les acteurs pouvaient regarder les rushs tout de suite. Et il y avait la cantine, c'était dans un tout petit village du Gers. Et
Il y avait même
Bruno Carrette, il y avait Michel Piccoli, il y avait Miu Miu.
Un côté instantané comme Miu Miu, ça, niveau des rushs. Voilà, un côté
Miu
instantané.
Miu Miu, si nous écoute, big up.
Ouais, en ce moment, elle nous écoute plus du trop. Hein. J'ai trop de retour, mais bon.
Ouais.
Concernant les comédiens pouvaient avoir un aperçu du montage pendant les semaines de tournage. La restauration se faisait aussi dans ce petit village du Gers. Elle obtiendra un César de meilleure actrice dans un second rôle en 91, mais aussi en 93 dans le film Indochine qui est de Régis Varnier, qui est une grosse production tournée en Malaisie. Elle nous a expliqué, on a vu un extrait d'une scène avec un travelling complexe, avec des enfants qui jouent, qui tournent autour d'elle. Donc ils ont fait évidemment plusieurs fois la prise. Donc vraiment les enfants, ils font des trucs différents à chaque fois.
Ouais.
Elle tient des cactus dans sa main. En même temps, elle a des répliques à dire à des endroits précis. Et elle tourne autour d'une bagnole rétro comme ça. Puis elle doit monter avec son mari parce que en fait, elle peste contre Catherine Deneuve, qui est la propriétaire des lieux et qui la renvoie en fait. Elle repart en métropole. Voilà, elle est censée être en Indochine, évidemment.
Petit ouais. aparté, Marguerite Duras n'a pas du tout aimé la réalisation de ce film-là, en fait, qui était pris d'un de ses romans.
Oui, ouais. Marguerite Duras, elle n'est jamais contente. De toute façon.
C'est vrai qu'elle n'est jamais contente, Marguerite Duras. Enfin, excuse-moi, c'était
c'est un principe de base.
C'était une aparté.
Et sans s'en rendre compte, le cactus l'a piqué à la main, et le soir, sa main avait triplé de volume à cause de l'aspect urticant du cactus, parce qu'ils étaient en Malaisie. C'est des plantes qui sont hyper sauvages et hyper robustes.
C'est des gros cactus.
Elle a dégusté parce que c'était des petites épingles, des petites épines, et elle n'a pas senti du tout qu'elle se faisait piquer. Voilà, donc elle était aussi, c'est la première fois qu'elle jouait avec Catherine Deneuve. À l'époque, c'était dans les années 90, c'était vraiment la. Bon, encore maintenant hein, d'ailleurs, mais c'était vraiment la déesse du cinéma français. Et donc c'est ça. Et les dialogues en plus étaient écrits par Jean-Claude Carrière, un très grand scénariste et dialoguiste qui a travaillé avec Peter Brook et Louis Buñuel, entre autres, hein, des figures du théâtre et du cinéma français. Voilà un aperçu dont nous avons pu bénéficier, moi et Bernard, lors de cette leçon d'actrice de Dominique Blanc, qui était la première leçon d'actrice du Festival du film d'Arras, qui ne s'est pas essayée à la réalisation. Il faut signaler qu'elle a joué la pièce Phèdre pendant 5 mois, ce qui est rarissime, pour une tragédie de théâtre classique qui l'a sans doute enfermé dans des seconds rôles au cinéma, mais par manque d'imagination des cinéastes et des producteurs. Hein. Généralement, les producteurs, ils aiment bien employer des acteurs dans des rôles qu'ils ont déjà fait pour être sûr que ça va donner ce qu'ils veulent. Quoi. Voilà.
Oui, c'est une panel de jeu, donc évidemment, ils reconnaissent voilà. Là-dessus. C'est vrai que c'est très dur de sortir d'un
emploi, comme on dit, hein, pour les acteurs.
Je ne sais plus le nom de l'acteur qui faisait beaucoup les Pierre Richard, qui était beaucoup enfermé là-dessus. C'était très dur de sortir du rôle.
C'est Pierre Richard qui faisait Pierre Richard.
Parce qu'il me semblait que Pierre Richard était un nom un personnage typique de la comédie française,
oui.
Qui était un peu mis à plein de couleurs en fait. Ah ouais, d'accord.
Ah non, c'est le. Mais comment il s'appelle ce personnage qui est dans plein de comédies françaises
Un peu, ouais, comme le dîner de con, tout ça, un peu
ouais, ce ouais, personnage.
Ouais.
Un peu, le distrait, voilà. Il a fait le distrait quand même.
Alors, pour revenir à ton film, il s'appelle déjà comment ce film-là qui est passé au Arras Film Festival?
Alors, il y avait plusieurs films en fait, parce qu'il y avait, il y avait pas La Reine Margot, mais il y avait plusieurs films. Il y avait Faut-il avoir peur de Mathilde, je crois. Non, Faut-il aimer Mathilde qui était tourné. Avec Dominique Blanc.
Mais celui que tu viens, ouais, voilà.
À la fin,
Dominique Blanc, c'était.
Je parlais d'Indochine, de Régis Varnier, qui était un film qui est de 93, donc c'est pas tout jeune, mais c'est une super production, c'est vraiment classique, puis
ouais.
tout le casting est superbe et tout, c'est vraiment les grosses productions à la française, comme il n'y en a plus beaucoup, mais bon, voilà.
Du coup, c'était un biopic sur le groupe.
Même au générique, il n'y avait pas Indochine, c'est dommage. Comme dans les séries américaines, j'adore ça, ton truc avec les rires, j'adore.
Okay.
C'est méta.
Merci Pierre-Charles.
Mais de rien.
Super,
voilà. On se revoit l'année prochaine pour le Arras Film Festival.
Avec plaisir. Mais du cinéma, de temps en temps, je viens de temps en temps avec un petit papier.
Dans
ton émission, j'aime
bien ça. Mais il n'y a pas de souci. Et toi aussi, Charlie, t'es allé au Arras Film Festival.
Ouais, j'ai vu 5 films au Arras Film.
T'as vu 5 films ?
5 quand même. Ça fait 5 de plus que moi.
Tu veux en parler vite fait d'un ou deux films vite fait là comme ça que t'as vu parce qu'on est en fin d'émission là, vas-y.
Ouais, un petit.
Alors j'ai vu Les Petites Marguerites qui est un film expérimental psychédélique tchèque des années 60.
Ah ouais. C'est bien ou c'est pas bien?
Disons que ça correspond pas à tous les goûts, quoi. Faut aimer les choses assez déstructurées.
Ça mérite d'exister.
Ah oui, complètement. Et puis surtout à l'époque, c'est quand même des excentricités de montage, de mise en scène, c'est j'imagine, ça, qui ont dû influencer tout un tas de personnes, notamment dans les pays de l'Est.
Mais
c'est pas un film à scénario, ouais. Si vous aimez les belles histoires et les grands personnages, c'est un peu compliqué. Voir, voilà.
Moi, j'aime bien les belles histoires.
Ouais, bah ne va pas voir ce film alors. Ah, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Ouais. C'est deux nanas qui bouffent un coup de temps en temps, et puis sinon, elles font des trucs
chelous.
Un peu étonnant, on va dire. Et puis beaucoup de plans un peu aléatoires, de cadenas, de trains, de rails. De couleurs différentes. Donc voilà, un film.
Un film pour ceux qui aiment la SNCF.
Et puis on va rester sur les acronymes et le LSD également. J'ai vu aussi Underground de Mirko Kusturica, qui est un film qui a gagné la Palme d'Or en 1995, qui est un film qui reste aujourd'hui complètement incroyable. Il s'est que j'étais malade et que j'ai chopé certains aspects critiques du scénario, mais c'était quand même incroyable.
Je ne l'ai pas vu, c'est quoi le sino?
Ouais, il faudrait que je le pêche au celui-là, Underground.
Le synopsis, du coup, c'est la Seconde Guerre est déclarée, notamment en Yougoslavie, et du coup, ça commence à bombarder, et des mecs vont se planquer dans les sous-sols de la ville dans laquelle ils sont, que je ne me rappelle plus.
Impossible à dire, de toute façon.
Je crois pas que ce soit mentionné, et puis ils restent là. Après, ils font croire à leur ami
que la guerre continue.
Et du coup, ils continuent à se cacher dans les trucs, mais il se passe peut-être des choses assez improbables. C'est un film un peu.
Crée un monde, en fait, souterrain, un peu comme ça, puis c'est toujours l'univers de Kusturica complètement délirant.
C'est assez barré. C'est un peu du réalisme magique, d'une certaine manière.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire que c'est un film réaliste, mais parfois, il se passe des choses un peu surnaturelles qu'il faut juste accepter comme. Existante.
Yes.
Et j'ai vu bien sûr un dernier film dont je voulais parler qui s'appelle Soudain les monstres.
Voilà. Soudain les monstres.
C'est dans les collections bébêtes, les bébêtes, hein, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et c'était un film, donc c'est un film de série Z américain des années 70 dans lequel un mâle alpha tout à fait traditionnel, une équipe de joueurs de football américain en réalité, va se faire une petite partie de chasse. Sur une petite île à côté de leur ville. Et il s'avère qu'un méchant industriel a nourri une poudre magique aux animaux locaux. Et il y a des poules géantes, des souris géantes et des frelons géants.
Des hamsters.
Donc ça marche. Qui a l'incrustation. Du coup, en fait, ils sont pas du tout géants. C'est juste qu'en fait, ils sont au premier plan. Et du coup, ils sont tout à fait inoffensifs. Et donc, c'est juste des animaux complètement inoffensifs qui se font dézinguer au fusil à pompe par un Américain standard. Le mec ressemble juste à l'Américain type.
Ça fait penser à Michel Gondry qui adorait l'homme qui rétrécit comme ça à cause des rapports d'échelle comme ça avec un chat énorme et des gros trucages qu'on voit bien quoi.
Il y a plein de courts-métrages aussi qui jouent avec ça et tout.
Allez, on en reparlera dans la prochaine édition. Donc c'était une spéciale cinéma. Le Arras Film Festival, c'était la semaine dernière. C'était du 3 au 12 novembre. Désolé, je vous coupe un peu l'herbe sous le pied, les gars. Mais on arrive à la fin de l'émission.
Quasi, ouais.
On reparlera de cinéma. On fera des spéciales jeux vidéo.
Est-ce que ça ne dirait pas un petit tour de table, savoir le dernier film que les gens ont vu au cinéma?
Faut se dépêcher. Moi, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était quoi? Je me souviens plus. Je l'ai plus là.
C'était pas Dune?
Je l'ai plus.
Non,
c'était Le Manoir Hanté. C'était Le Manoir Hanté de Disney. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Voilà.
Et je me souviens pas. Moi, je les vois à la télé en ce moment.
Loulou.
Moi, c'était Yannick de Quentin Dupieux. Du coup, ça fera déjà un moment. Ouais.
J'ai vu aussi au cinéma.
Mais en dehors de ça aussi, je conseille la dernière série Arte avec Jean-Paul Rouve.
Ouais. Polar Dark.
Polar Park. Ouais, et qui est vraiment entre un thriller et une comédie. C'est assez loufoque.
Même Xavier Le Harper l'a recommandé.
Par contre, je déteste David Mourier.
On se dépêche, Bud, toi.
Alors moi, j'ai vu hier Le Garçon, le Héron.
Le garçon le héros, le dernier Miyazaki.
C'est ça.
Alors, on en parlera l'année prochaine.
C'est ça.
Toi, Charlie, dernière fois que t'es allé au cinéma, c'était en 42, 43, je sais plus toi.
Ouais, c'était. Non, c'était avant.
C'était un jour de.
C'était la lune de Méliès, voilà.
C'est avant la décor. C'est ça.
Bon, allez, salut à vous tous, on se voit bientôt. Ouais, ciao.
Merci Antoine.
À court des miracles.
À court des miracles.